soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi. Vous êtes sur VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Ceci au moment où plusieurs officiels américains et africains sont réunis en sommet annuel à Johannesburg pour plancher sur la prolongation de l'accord qui expire en 2025. Et pour en parler, nous recevons plusieurs invités. Nous avons en ligne Daniel Anogo, il est président de l'Africa Investment Corporation. Monsieur Daniel Anogo, bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien?
Très bien, merci. Notre deuxième invité est Ibrahima Aïdara, il est économiste et directeur exécutif adjoint du Bureau Afrique d'Open Society. Bonsoir, monsieur Ibrahima Aïdara.
Bonsoir, depuis Dakar.
Merci de nous recevoir à Dakar. Avec moi ici en studio, Junior Bonpetit, il est entrepreneur basé ici au Texas, ici aux États-Unis. Bonsoir, monsieur Bonpetit.
Bonsoir, merci.
Et nous espérons avoir Idriss Linge, il est journaliste économique et rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Nous espérons l'avoir d'ici la fin de l'émission. Tout de suite, nous commençons le débat avec nos invités. Voilà, pour commencer, on va planter le décor en parlant de la AGOA, son histoire, ses objectifs. On va tout de suite donner la parole à monsieur Daniel Anogo, président de l'Africa Investment Corporation. Alors monsieur Anogo, l'AGOA a été mise en place au début des années 2000 par le Congrès américain, approuvé par le Congrès américain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi est-ce que les Américains avaient mis en place ce programme et quels étaient ses objectifs?
Merci pour la parole. En fait, ils ont mis ça en place d'abord pour encourager le commerce entre l'Afrique et les États-Unis, mais aussi pour faciliter les produits qui sont fabriqués aux États-Unis, c'est-à-dire les produits qui sont fabriqués en Afrique, que les Américains ont besoin, comme le pétrole, de passer plus facilement à travers cette loi. Si vous voyez l'historique de la loi, la plupart des gens qui sont des pays qui sont membres de l'AGOA, parmi les, je pense, quarantaine membres, il n'y a que 4 ou 5 qui ont vraiment travaillé pour arriver à un point où ils pouvaient exporter et aussi atteindre le marché américain. Donc, c'est un peu l'historique de ça, quoi.
Oui. Alors, Ibrahima Aïdara, 20 ans plus tard, s'il fallait faire un rapide bilan, que direz-vous? Est-ce que l'AGOA a vraiment profité aux Africains?
Merci beaucoup. Je pense qu'ici, on peut imaginer que le bilan est mitigé. Si on regarde les objectifs, disons, qui ont été soulignés par Daniel, quand on regarde les objectifs pour faire l'évaluation de l'AGOA, on peut voir qu'effectivement, et toutes les études ont suggéré que le commerce a relativement augmenté, aussi bien en exportation qu'en importation, des deux côtés, depuis ces 20 dernières années, mais de façon très faible comparée au reste du monde. Et donc, rien que du point de vue commercial, les observateurs et les chercheurs se sont mis d'accord que le potentiel de AGOA était loin d'être atteint. Et Et donc, si on regarde les autres aspects de cet accord, notamment les questions de diversification, les questions d'investissement, on est absolument très loin des objectifs. Comme Daniel l'a dit, la diversification n'a pas du tout été réalisée. On a vu que l'Afrique était restée toujours sur les produits primaires, principalement le pétrole et dans une moindre mesure en produits, industrialisés, des textiles. Mais essentiellement, c'était resté essentiellement en mono, production. Donc la diversification était loin d'être atteinte, mais aussi les investissements n'étaient pas au rendez-vous. Au regard des statistiques des investissements américains en Afrique, le taux est resté très faible, en deçà de 1% des investissements africains. Et globalement, l'investissement direct étranger en Afrique et même de façon préoccupante, diminué pendant ce temps-là.
Oui, donc, alors on va prolonger le débat sur cet accord. D'abord, on va prendre Junior Bonpetit qui est avec nous ici en studio. Alors Junior, vous qui êtes aux États-Unis, quel regard vous portez sur cet accord? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous avez l'impression que les entrepreneurs africains profitent vraiment de cet accord?
D'abord, l'idée de la GOA, c'est une très belle idée, une belle initiative de promouvoir l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. Mais la GOA a souffert de la vulgarisation. Même nous, ici à la diaspora, on ne sait même pas c'est quoi la GOA, qu'est-ce que la GOA apporte exactement pour nous, les entrepreneurs africains, qui faisons les commerces avec les États-Unis et l'Afrique. Alors, je pense que les États-Unis doivent comprendre que la GOA, c'est l'offre américaine. Parce que lorsqu'on regarde en Afrique, aujourd'hui, la Chine apporte l'offre de l'infrastructure avec les Africains. Et ça marche. Donc, le troc, vous avez les minerais ou les produits naturels et avec les infrastructures. La Russie vient avec une autre offre, avec la sécurité. La Russie apporte la sécurité, vous voyez ce qui se passe en Afrique maintenant, et ça marche. Et la GOA, c'est l'offre américaine. Alors, cette offre-là doit être d'abord vulgarisée. D'abord ici, à la diaspora. On doit comprendre c'est quoi la diaspora, c'est quoi la GOA, qu'est-ce que la GOA apporte. Et au-delà de ça, aux pays africains. Alors, aller toujours dans les chemins traditionnels, le ministère et tout ça, la machine ne tourne pas facilement. Il faut aller directement vers les 90% de la population pour comprendre les artisanaux. Celui qui produit l'arachide, qui produit le café, il doit comprendre exactement ce que la GOA apporte. Et ça, c'est un travail que les autorités américaines doivent travailler avec les diasporas africaines et aussi avec les artisanaux, les gens qui sont dans les business africains directement, sans pour autant passer par nécessairement les structures étatiques.
Alors, retrouvons Idriss Linge, journaliste économique, rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Salut Idriss Linge.
Bonjour Mohamedou.
Voilà, on parle de la GOA. Vous avez pris le débat en cours. Vous, quel est votre regard sur la GOA? On a l'impression que les Africains n'en profitent pas assez. Avant vous, un de nos invités parlait des matières premières qui sont les produits d'exportation pour l'essentiel d'Afrique. Et puis ici en studio, Junior Bonpetit disait qu'il n'y a même pas une vraie sensibilisation autour de ce programme des entrepreneurs de la diaspora qui ne savent même pas que ce programme existe. Alors, vous, quel regard vous portez sur ce programme et comment faire pour que les Africains en profitent davantage?
Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, peut-être que je ne dis pas aux États-Unis, mais je suis un peu obligé de comprendre comment fonctionne ce pays en tant que journaliste économique. Les États-Unis ont une façon de percevoir la coopération avec le monde. Elle est basée sur ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire les échanges. Même si quelque part, les Américains essayent toujours dans les échanges d'avoir la meilleure des plus-values. Et l'Amérique, à un moment donné, s'était dit, comment est-ce qu'on peut permettre aux pays africains de pouvoir se développer. Et la seule chose que les Américains savent faire, c'est évidemment dans le commerce, hein, le commerce des biens, le commerce des idées, le commerce des technologies, le commerce des services. Et donc la loi avait été prise, parce que souvent ce qu'on oublie, c'est que à Doha, nous dit en fait African Growth Opportunity Act, c'est-à-dire que une loi sur les opportunités de croissance pour l'Afrique. C'est une loi qui comporte un certain nombre d'exemptions qui permet aux pays africains de mettre en place des procédures qui leur permettent ensuite de venir suffisamment et facilement faire les opérations de commerce avec les États-Unis. Mais est-ce que tout le monde avait compris ça de la même manière? Je pense que j'ai tendance à dire comme un petit que non, mais peut-être là où je ne serais pas d'accord avec lui, c'est qu'il a l'impression que c'est les Américains qui devaient en plus faire l'effort pour sensibiliser les gens. Je pense que nous aussi, on doit être alerte. Les Américains, eux, quand ils veulent venir investir en Afrique, ils sont alertes, ils font de la veille stratégique, ils font de la recherche d'informations, et ils font tout pour connaître ce qu'il y a de mieux pour eux dans un pays donné. Est-ce que nous, les Africains, nous faisons le meilleur qu'il y a pour connaître les opportunités qui existent? Je me rappelle encore cet exemple, à l'époque, Mohamedou, quand nous étions collègues au Cameroun, il y avait cette entreprise camerounaise qui a vu ses tissus refoulés à Atlanta, simplement parce que la personne qui avait envoyé les tissus n'avait pas compris que le consommateur américain a besoin de savoir si le tissu s'élave à la machine à laver, à quelle température et avec quel produit. Et il avait estimé que les Américains ont refoulé ces produits alors qu'ils n'avaient simplement pas compris comment fonctionne le marché américain. Donc je pense que c'est une opportunité qui avait été donnée. Est-ce que nous l'avons saisi suffisamment? Je ne pense pas. Est-ce que les Américains ont fait suffisamment d'efforts? Je ne sais pas si c'était à eux de le faire. Je pense que c'est toujours à ceux qui ont une opportunité de la saisir. Et après, s'il y a des difficultés, on peut résoudre ça avec les pays qui font ces difficultés.
Sale certitude, bon petit, les États-Unis regorgent d'opportunités énormes pour les entrepreneurs africains. Vous qui vivez ici, quelles sont les niches d'opportunités qui existent pour quelqu'un, pour un Africain qui veut venir, qui veut en gagner le marché américain?
Merci pour la question, je vais revenir, mais je vais quand même parler avec réagir par rapport à ce que le frère a dit. Moi, j'exporte le poisson fumé du Congo ici aux États-Unis. Alors, j'ai rencontré des obstacles dans mon pays, des structures, parce que la GOA, vous exportez duty free, vous ne payez pas la douane. Mais déjà sur place, les autorités ils disent que nous, cette histoire de la GOA, ça, ce n'est pas en place, ça ne marche pas. Vous voyez, d'abord, la machine bloque. Vous dites, pour pousser les gens à aller vers la GOA, mais sur place, l'information n'y est pas. Et alors, monsieur dit que nous, on doit faire l'effort. On fait l'effort, on est là, mais ça ne se passe pas. Donc, quelque part, on doit redéfinir les choses. Alors, les opportunités sont énormes. Les États-Unis, c'est un grand pays consommateur. C'est comme une image que je vais donner, c'est comme une femme qui aime bien le shopping. Donc, les États-Unis, c'est l'opportunité d'une donne une couverture, une ouverture pour nous les pays africains d'exporter les choses ici. Il y a tout. Je vous donne un exemple de la nourriture, la farine de maïs les yams. Ces commerces représentent annuellement $1 milliard entre les États-Unis et l'Afrique. Vous voyez, donc l'opportunité est là. Alors, si vous voulez mettre des pipelines, il faut que de l'autre côté, les autorités américaines puissent collaborer avec les communautés africaines et qu'il y ait des antennes dans chaque communauté africaine, le Congolais, les Ivoiriens, toutes les communautés africaines ici, qu'il y ait des antennes dans chaque État pour vulgariser. Nous avons des chambres de commerce où les entrepreneurs africains se rencontrent pour passer l'information. L'information doit circuler. On doit chercher, mais l'information doit aussi être évaluée. Et d'être disponible pour cela. Donc, les opportunités sont tellement énormes pour nous, les Africains. Je pense qu'il y a encore le temps de redéfinir les choses pour que cette opportunité puisse effectivement bénéficier à l'économie américaine et à l'économie africaine.
On va prendre l'avis de Daniel Anogo, président de l'Africa Investment Corporation. Quels sont les goulots d'étranglement qu'il y a par rapport à la bonne mise en œuvre de ce programme, selon vous?
En fait, c'est le travail du gouvernement localement, comme ils ont dit là, de former d'abord à mieux comprendre quels sont les produits qu'on a, qu'on peut vendre. Je vous donne un exemple. Au Cameroun, c'est le rotin. C'est fabriqué partout. Mais ici, la plupart des rotins, c'est importé de Thaïlande. Nous, on fait de bon travail là-bas. mais comment assister les petites et moyennes entreprises sur place à mieux comprendre la loi d'AGOA et produire à un niveau et les aider à vraiment s'encadrer et travailler ensemble pour avoir un produit pour atteindre le marché américain. Et le marché américain, ce n'est pas 300 millions de personnes. Il faut mieux comprendre le marché parce que le marché, ça peut être Charlotte, ça peut être Atlanta, un coin d'Atlanta. Où c'est... Donc il faut une étude du marché et il faut aussi les gens qui sont de ce côté, aux États-Unis, qui vont aider maintenant à trouver et chercher et à faciliter la tâche. Je suis d'accord avec tout ce que les gens ont dit, là, les autres ont dit, mais c'est la plupart du travail, c'est le secteur privé qui doit le faire sur place, mais le gouvernement doit aider à formaliser les entreprises qui ont moyens, qui n'ont même pas les moyens à se rassembler, mais aussi les aider à voir comment on peut vous assister à mieux produire, à mieux à exporter pour arriver le marché américain. Quoi.
Oui. Ibrahim Aïdara, une chose est d'ouvrir le marché américain, de permettre que les produits africains ne payent pas les droits de douane. Un autre challenge est d'avoir des produits de qualité qui respectent les normes et les qualités internationales, notamment américaines. Est-ce que ce n'est pas là aussi un véritable problème pour les entrepreneurs, les commerçants africains?
Je suis d'accord avec vous, de même qu'avec Daniel. À mon avis, l'un des goulots d'étranglement le plus important se trouve dans l'approche même de l'AGOA qui est basée sur l'économie libérale, n'est-ce pas? Où on demande une conditionnalité, c'est de libéraliser complètement et aussi d'enlever tous les obstacles au commerce. En contrepartie, les entreprises africaines sont loin d'être concurrentielles comparées aux entreprises aussi bien américaines qu'au reste du monde. Et, d'abord, le collègue qui a parlé, malgré les opportunités qui existent sur le continent, les entreprises africaines n'ont pas bénéficié de l'AGOA. Il n'y a que les grandes entreprises et ces grandes firmes sont américaines et qui sont spécialisé dans l'extraction de pétrole. Et en plus, là où AGOA a bénéficié, notamment dans le secteur du textile, il s'est avéré que c'est les entreprises chinoises qui ont plus bénéficié de cela. Donc, nous sommes loin d'être concurrentiels comparés aux entreprises américaines et aux entreprises du reste du monde, de l'Asie ou de l'Amérique latine. Ça, c'est un fait qu'il faut reconnaître et sur lequel il faut travailler si on veut profiter des accords bilatéraux ou internationaux. Et donc, à mon avis, c'est véritablement là le problème. Pas seulement la qualité rentre aussi dans la compétitivité des exportations. Un de nos partenaires ici, un partenaire de Open Society qui a construit ce qu'il appelle l'indice de transformation africain, un indice composite qu'il a constitué. Il est basé au Ghana et a pu montrer que aussi bien la diversification que l'indice de compétitivité des exportations ont décliné pendant cette période-là en Afrique. Donc ça c'est un problème pour profiter de l'échange international.
Alors, Idriss Linge, je disais, vous êtes journaliste économique, rédacteur en chef de l'agence Ecofin. On a parfois l'impression, en analysant cet accord, que les pays qui en profitent davantage, ce sont des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, les pays francophones, ne tirent pas véritablement profit de cet accord. Est-ce que c'est votre avis et pourquoi, selon vous? Quelle analyse vous faites des relations entre les pays francophones et les États-Unis par rapport à cet accord?
Bon, il faut savoir que le marché américain est déjà un marché en soi-même extrêmement compétitif. Je ne suis pas toujours à l'aise avec le principe de la fiscana. Si je vous parle de la kyrielle des outils qui existent aux États-Unis pour accompagner la relation commerciale avec l'Afrique, francophone ou anglophone, il y en a une kyrielle, hein. Il y a par exemple le Prosper Africa, qui est justement une espèce, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entité qui est chargée d'accueillir les investisseurs africains, américains, qui veulent savoir plus sur les marchés de l'autre, de l'un ou de l'autre côté de l'Atlantique, afin de pouvoir mieux fluidifier les relations. Maintenant, pour ce qui est des pays francophones, bah, c'est tout à fait normal. Vous avez par exemple dans les pays anglophones, un pays comme le Nigeria, qui à une époque donnée était un gros fournisseur de pétrole pour les États-Unis grâce à la présence d'ExxonMobil. ExxonMobil est venu s'installer, il a bien respecté la régulation et il est parvenu à faire son commerce sans payer trop de taux de douane. C'était très bien pour lui. Vous avez l'Afrique du Sud où il y a de très très gros investisseurs. C'est une économie très structurée, très diversifiée qui a su tirer avantage de l'opportunité qu'offrait l'AGOA. Mais dans les pays francophones, c'est un peu plus compliqué parce que les pays francophones ne sont pas déjà habitués, je suis d'accord avec le frère qui a parlé de l'économie libérale. Nous ne sommes pas habitués à l'économie libérale. Regardez, le frère, par exemple, qui dit qu'il vend le poisson, il dit oui, au Congo, c'était compliqué. Mais laisse le Congo, viens au Cameroun. Les Camerounais comprendront que tu vas leur apporter un intérêt, te faciliteront les choses. Il y a plein de poissons fumés au Cameroun. Si le Cameroun est compliqué, va au Bénin. Va au Bénin où ils ont de l'igname qu'ils produisent et ils ne trouvent pas de débouchés parce que le marché interne ne paye pas suffisamment le prix. Va au Togo, ils vont accepter de te vendre de l'igname pour que tu puisses les payer en dollars. Donc je pense aujourd'hui que l'Afrique en elle-même est une vaste opportunité. Il ne faut plus voir l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone. Il faut voir l'Afrique. L'Afrique est en train de construire un marché commun. Comment des Chinois peuvent partir à 7000 km du continent africain, venir installer des usines en Afrique et tirer avantage de l'AGOA et nous, sur place, nous nous plaignons de nos dirigeants? Mais il y a un problème. Il faut déjà comprendre quelles sont nos forces, nos faiblesses, mais aussi les opportunités que nous avons et comment nous pouvons avancer. Donc je pense, Mouhamadou Oumfa, que l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, ça ne doit pas exister. On doit avoir une Afrique qui s'ouvre véritablement et qui saisit les opportunités. De l'AGOA.
Exactement. Merci beaucoup Idriss Linge. Alors on va aborder rapidement un dernier point, c'est le fait que l'AGOA est soumise parfois à des conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits humains, de l'état de droit. Toutes ces conditionnalités politiques liées aux droits de l'homme, est-ce que ce n'est pas un frein, Junior Bonpetit, est-ce que ce n'est pas un frein à la matérialisation, à la bonne réalisation de cet accord de l'AGOA?
Effectivement, c'est ça, c'est un des blocages de l'AGOA. Vous savez, lorsque les Chinois, comme je parle des Chinois, ils viennent, ils ne s'occupent pas de la politique interne. Les Russes, même, ils réussissent. Et l'Amérique doit suivre le pas, doit faire la même chose. Je suis d'accord qu'il faut s'intéresser aux droits de l'homme, mais lorsqu'on nous parle de business, on reste dans le secteur économique, focus dans le secteur économique. Je parle encore d'un autre aspect de l'AGOA qui est FDA Regulation. Lorsqu'on fait, on veut ramener le produit de l'Afrique ici, vous devez suivre certaines exigences. L'emballage, il faut qu'il y ait une description du produit, le poids, tout ça. Déjà avec l'emballage ou les cartons, tout doit être décrit. Les clients doivent savoir ça. Voilà, ce sont des choses, tout passe par la vulgarisation, tout passe par la formation. Et au lieu de s'attaquer ou de s'intéresser à 1% des gens, les grandes entreprises qui sont avec le produit pétrolier et tout ça, aller vers le 90% de la population. Celui qui produit le poulet, et celui qui a l'élevage et tout ça, aller vers ces gens-là. Et c'est nous la diaspora. L'Amérique doit passer par nous. Parce que nous maîtrisons ici, nous maîtrisons l'Afrique, que ce soit au Congo ou n'importe quel pays africain. Donc l'opportunité est là et j'aimerais que l'autorité américaine puisse étendre l'opportunité de l'AGOA parce que nous devons effectivement bénéficier de cela, partant d'abord nous ici à la diaspora et nos pays africains.
Alors Ibrahima Haïdara, pour terminer, hein, parce que l'émission tire vers sa fin, qu'est-ce que vous en pensez de ces conditionnalités? Rappelons que cette semaine, Washington a annoncé qu'il suspendait cet accord avec plusieurs pays qui n'avaient pas respecté les normes démocratiques et tout cela. Quel est votre avis rapidement en 30 secondes?
Oui, moi je pense que c'est un exercice assez délicat que d'évaluer l'impact des exclusions. D'abord, voyez les pays qui sont exclus, qu'est-ce qu'ils échangent avec les États-Unis? Ensuite, les conditions pour lesquelles ils sont exclus, les arguments pour lesquels ils sont exclus, les arguments démocratiques. Qu'est-ce qui a amené ces problèmes-là dans ces pays-là? En première instance, ça devrait être les conditionnalités même de l'AGOA sur la démocratisation, les droits humains, etc. sont tous là des facteurs qui ont amené à la remise en cause du processus démocratique dans ces pays-là.
Merci beaucoup, Ibrahima Aïdara. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous êtes économiste et directeur exécutif adjoint du Bureau Afrique d'Open Society. Nous avions aussi Idriss Lenz, journaliste économique, rédacteur en chef de l'agence Ecofin, et Daniel Anogo, président de l'Africa Investment Corporation. Bien évidemment, Junior Bonpetit était avec nous ici en studio. Merci d'avoir écouté l'Amérique et vous, que vous pouvez retrouver sur notre site web voaafrique.com. Au revoir.